Vous écoutez France Culture.
Et le journal vous est présenté par Clotilde Ravel. Bonjour Clotilde.
Bonjour Tiffaine, bonjour à toutes et à tous. C'est une décision historique qui pourrait faire jurisprudence. Le géant de l'agrochimie Monsanto, reconnu coupable d'avoir caché la dangerosité de ses produits au glyphosate, décision d'un jury du tribunal de San Francisco. La firme qui a cependant fait appel de cette décision et qui a les moyens de faire durer la procédure, nous dira le président de l'association environnementale Génération Future. Dans ce journal, nous irons en Turquie où la livre a perdu un quart de sa valeur en une journée, conséquence des sanctions économiques américaines. Le président turc dénonce une guerre économique et de nombreux journaux pro-gouvernementaux reprennent ces termes. Les précisions dans cette édition de notre correspondant à Istanbul, Alexandre Billette. Cela faisait une semaine qu'il sillonnait les eaux libyennes en vain. L'Aquarius a repêché hier deux bateaux au large des côtes, 141 personnes sauvées. Reportage dans ce journal de Maureen Mercier à bord du bateau affrété par SOS Méditerranée. Les droits de l'homme devraient à nouveau être l'affaire d'une femme à l'ONU. Pour la quatrième fois dans l'histoire, l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, a été confirmée à ce poste hier par l'Assemblée générale de l'ONU. La firme Monsanto connaissait-elle la dangerosité de ses produits contenant du glyphosate? La réponse est oui, selon le jury d'un tribunal de San Francisco. Jury qui a condamné le groupe Monsanto à verser 289 millions de dollars à un jardinier, Dwayne Johnson. Cet Américain de 46 ans est atteint d'un cancer du système lymphatique en phase terminale. Il avait pulvérisé pendant deux ans ce désherbant sur les terrains de l'école où il travaillait. Décision historique selon son avocat, même si le combat n'est pas fini car Monsanto a décidé de faire appel et ce n'est pas une surprise pour François Veyrette, président de l'association Génération Future qui lutte contre l'utilisation des pesticides.
Monsanto c'est un géant, ils ont tous les fonds nécessaires pour faire durer les procédures juridiques autant qu'ils le souhaitent. C'est pas une surprise qu'ils fassent appel puisque derrière ces versements, il y a la reconnaissance de la dangerosité des produits à base de glyphosate vendus par Monsanto et aussi le fait qu'ils savaient que le produit était cancérigène. C'est quand même peut-être même la partie la plus extraordinaire de ce jugement. La justice américaine savait être indépendante. Puisque le jugement est absolument clair. Donc on veut, nous, du côté de Génération Future, continuer à penser que la justice va continuer à être indépendante, même si effectivement Monsanto est très bien armé en termes de finances et d'avocats pour continuer à essayer de repousser les décisions. Mais il arrive un moment où la justice passe quand même. Et vous citiez le cas de Paul François en France, même s'il y a eu un appel, etc., que l'affaire n'est pas terminée. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à la fin. Et donc, on ne sait bien qu'à la fin, aux États-Unis comme en France, Monsanto soit condamné.
François Veyrette, interrogé par Laurent Sénéchal sur France Info ce matin. La NASA repousse à demain le lancement vers le Soleil de la sonde Parker, report décidé en raison d'un problème de pression d'hélium gazeux, problème qui s'est révélé quelques minutes avant le décollage ce matin en Floride. La NASA qui précise que la prochaine fenêtre de lancement s'ouvre demain matin à 9h30 heure française. Direction la Turquie à présent, après le vendredi noir qui a vu la devise s'écrouler en raison des sanctions américaines, moins 24% depuis hier face au dollar. Le président Recep Tayyip Erdogan appelle les Turcs à la lutte nationale, lutte contre ce qu'ils qualifient de guerre économique. Un message relayé ce matin dans la presse pro-gouvernementale qui constitue la majorité des titres. Les médias d'opposition, quant à eux, s'inquiètent surtout des conséquences de cette crise monétaire sur le portefeuille des Turcs. À Istanbul, Alexandre Billette.
Le président turc a appelé hier ses concitoyens à lutter contre cette guerre en changeant leurs devises étrangères en livres turcs. Car pour Recep Tayyip Erdogan, la Turquie est en guerre, elle est attaquée par les marchés. C'est d'ailleurs ce que reprennent ce matin les nombreux journaux pro-gouvernementaux. C'est une attaque économique, nous allons gagner la guerre économique, par exemple, à la une de ces titres. Du côté des quotidiens d'opposition, on se penche surtout sur les conséquences à venir pour les Turcs. Les travailleurs sont aujourd'hui 16% plus pauvres pour le journal de gauche Evrensel. 16%, c'est la perte de la valeur de la livre face au dollar pour la seule journée d'hier. Le régime d'un seul homme mène à la catastrophe, titre Birgun, en parlant du nouveau régime présidentiel. Le quotidien évoque notamment le prix des biens importés qui complique la vie des commerçants. L'un d'eux explique, un vêtement vendu il y a quelques semaines 35 livres lui coûte aujourd'hui plus de 50 livres. Enfin, le journal Jumhuriyet sonne l'alarme avec un autre exemple concret. La crise des médicaments est à notre porte. C'est le président de l'association des pharmaciens qui l'explique. En raison de la chute de la livre, moins de médicaments ont été importés ces dernières semaines. Résultat, le spécialiste s'inquiète. Pour des centaines de produits, il ne reste plus que 10 jours de stock dans les dépôts.
Deux jours après la trêve instaurée mais pas confirmée officiellement entre le Hamas et Israël, un Palestinien a succombé aujourd'hui à des blessures infligées par des tirs de soldats israéliens. Il avait été blessé lors de protestations près de la barrière séparant la bande de Gaza du territoire israélien. Troisième victime en deux jours, dont un secouriste. Ces affrontements qui ont également fait 307 blessés. Nouveau bilan du séisme sur l'île indonésienne de Lombok. Il s'est alourdi à 387 morts. L'île victime dimanche dernier d'un tremblement de terre d'une magnitude de 6,9. Des centaines de milliers de personnes déplacées manquent encore actuellement d'eau courante, de nourriture et de médicaments. L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, prend la tête du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Décision confirmée hier par un vote de l'Assemblée générale des Nations unies à Genève. Consensus parmi les 193 États membres. Michelle Bachelet, 66 ans, remplace à ce poste le Jordanien Zeid Raad al-Hussein, dont le mandat de 4 ans arrive à son terme. Des applaudissements ont retenti quand le résultat a été officialisé, Nadine Hempstein.
Une femme mondialement reconnue à un poste international autant utile que contesté, Michelle Bachelet relève donc le défi et dès le mois de septembre, la nouvelle haut-commissaire présidera la 37e session du Conseil des droits de l'homme. Dénoncer les abus dans le monde et débloquer les verrous que certains pays en crise et en conflit mettent à tout travail du Conseil des droits de l'homme, la tâche est plus que difficile. Être haut-commissaire, ce n'est pas du gâteau, dit-on dans les couloirs de l'ONU. Le haut-commissaire ne peut être un activiste et attaquer les gouvernements. Il doit avoir la capacité de construire un consensus, de dire la vérité sans condamner, explique un rapporteur des Nations Unies. Michelle Bachelet a donc été choisie, elle qui connaît bien les droits humains et les arcades des pouvoirs. Après son premier mandat de 4 ans comme première présidente du Chili, Michelle Bachelet a été en 2010 la première directrice de l'agence ONU Femmes. Puis en 2014, elle est élue de nouveau présidente du Chili. Cette année 2018 est également le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En ces temps de montée des inégalités et de haine et d'exclusion dans le monde, la nouvelle haut-commissaire des droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'efforcera de faire entendre sa voix.
Nadine Hempstein pour France Culture et Michelle Bachelet prendra ses fonctions le 1er septembre. Une marche blanche est organisée en ce moment même à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Manifestation à la mémoire de Demba Touré, décédé dans une fusillade la semaine dernière. Fusillade dans la cité Berthe de la Seine-sur-Mer. Sa famille et ses soutiens dénoncent notamment les trafics de stupéfiants qui sévissent dans cette cité, mais également les règlements de comptes et la circulation des armes qui terrorisent les habitants. Deux hommes soupçonnés d'une autre fusillade, cette fois-ci à Beaune, en Côte d'Or, ont été placés en garde à vue ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir blessé par balle avec des fusils, précisément 7 jeunes. Le mobile de l'acte raciste est envisagé par les enquêteurs. Pour tenter d'échapper à l'arrestation, l'un des deux hommes a foncé sur les policiers en voiture, blessant l'un d'entre eux. De sauvetage coup sur coup, l'Aquarius, bateau humanitaire qui patrouille à nouveau depuis un peu plus d'une semaine au large de la Libye. Ce bateau a pu secourir 141 personnes hier après une longue halte de un mois à Marseille. La première embarcation a été retrouvée sans moteur à la dérive à plus de 35 km des côtes libyennes. Reportage de Maureen Mercier à bord du bateau affrété par SOS Méditerranée.
10h30 du matin, un premier bateau est repéré par les marins sauveteurs. 25 personnes sur une coque de noix, dont 6 femmes épuisées, déshydratées. Des cas de tuberculose sont très vite repérés. Lorsqu'ils mettent enfin le pied sur le pont de l'Aquarius, souvent, les jambes se dérobent.
Pour nous, on se disait que tout était fini. Pas de moteur. On s'est dit, voilà, nous sommes perdus, on vous voit. Franchement, ça reste gravé là, jamais.
Le sauvetage à peine terminé, une barque en bois qui n'a rien à faire en pleine mer apparaît. Cette fois-ci, 116 personnes y sont entassées, parmi lesquelles un nouveau-né. La majorité sont des jeunes érythréens, somaliens, mineure,
16 ans.
Ifa, infirmière de l'équipe de Médecins Sans Frontières.
Il y avait de l'eau dans le fond du bateau. Ces gens n'avaient plus rien à boire, ni de nourriture à bord. Je ne vois pas comment ils s'en seraient sortis si nous n'avions pas pu les récupérer.
141 rescapés dorment désormais sur le pont en acier. Certains posent déjà la question, où irons-nous ? Réponse des équipes humanitaires, nous ne savons pas encore dans quel port nous pourrons accoster. Une chose est certaine, nous ne vous ramènerons pas en Libye, vous êtes désormais en sécurité.
Aujourd'hui, journée sèche et ensoleillée avec quelques nuages sur le nord du pays. De la Bretagne à la région parisienne, les passages nuageux pourront parfois donner quelques gouttes. Mais les températures sont en hausse. Cet après-midi, entre 20 et 22 degrés de la pointe bretonne au littoral de la Manche, 23 à 29 degrés en général. Les maximales 31 degrés dans le sud, à Bayonne, Nice et Fort-Calquier. Chaleur aussi en Corse où les autorités alertent sur les risques d'incendie. Tout de suite, vous retrouvez Tiffaine de Rocchini pour le magazine du week-end.
Merci beaucoup Clotilde et on vous retrouve donc à 18h.